Bonjour à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Cédric Fuentes, Louis Drillon, Arjuna Andrade, Léa Sabourin et Guillaume Ménard. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Alex Dang.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Nous entamons aujourd'hui une nouvelle série consacrée aux penseurs du libéralisme. Ce courant de pensée majeur, né au XVIIIe siècle, continue d'infuser la pensée économique et d'influencer de nombreuses politiques à travers le monde. S'opposant au colbertisme qui plaçait l'État au cœur du jeu économique, les penseurs libéraux, à commencer par Adam Smith, font de la liberté et de l'intérêt individuel les véritables piliers du marché. La théorie dite classique sera ensuite revisitée par Friedrich Hayek et l'école autrichienne, comme on le verra demain. Mercredi, c'est la doctrine de Milton Friedman et de ses disciples, les Chicago Boys, que nous examinerons. Jeudi enfin, on se demandera ce que signifie être libéral aujourd'hui. Mais d'abord, revenons aux origines de la pensée libérale. Il est 14h, passé de 1 minute sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons retracer l'histoire du libéralisme économique en compagnie de Nathalie Cigaud, professeure de sciences économiques à l'université Panthéon-Sorbonne, membre du laboratoire Phare et autrice de Bentham et l'économie, une histoire d'utilité publiée aux éditions Economica. En compagnie également d'Antoine Rebérol, professeur à l'université Paris-Nanterre, auteur de La pensée économique de Valras, paru chez Duno. En fin d'émission, Arjuna Andrade sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho. Nathalie Cigaud et Antoine Rebérol, bonjour.
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 Merci beaucoup d'être là. Alors, on va commencer par un petit travail de définition. D'abord, il faut préciser que le libéralisme est à la fois une doctrine politique et une théorie économique. Que désigne-t-on par libéralisme économique, Nathalie Cigaud ?
Oui, alors c'est peut-être pas une petite définition, c'est un thème énorme et très très difficile. La manière dont on peut décrire le libéralisme économique, déjà, ça évolue. Hein. Il y a des libéralismes différents selon les époques. On peut peut-être essayer de définir ça en adoptant une perspective un peu historique, justement. Les premiers penseurs, et vous y avez fait référence tout à l'heure, les premiers penseurs libéraux, ce sont sans doute les physiocrates, qui mettent l'accent sur la nécessité de laisser aux individus l'initiative privée et qui s'inscrivent en contre face au colbertisme, par exemple en France, ou au mercantilisme, aux différentes formes du mercantilisme dans les autres pays.
Donc dès la fin du XVIIe siècle.
Voilà, dès la fin du XVIIe siècle. Ensuite, vous avez les théoriciens classiques, et en particulier Smith, qui rend d'ailleurs hommage à Keynes, l'un des physiocrates, qui va essayer de définir le rôle de l'État, qui va d'ailleurs donner un rôle à l'État en économie, mais qui en même temps va mettre l'accent sur le fait que chaque individu, poursuivant son propre intérêt, ça permet de converger vers un intérêt général, ça permet de converger spontanément et sans même que l'individu n'y pense. C'est-à-dire, c'est vraiment, c'est un processus naturel, en quelque sorte.
Et cette définition va ensuite être transformée, réutilisée. Le terme de libéralisme économique va désigner de nombreuses autres choses. Il y aura ensuite, comme c'est le programme de toute notre semaine, plus tard Hayek, Friedman, jusqu'au néolibéralisme aujourd'hui.
Voilà, je pense que le terme néolibéralisme est important. Hein. Ça montre bien que aujourd'hui le libéralisme est beaucoup plus fort en quelque sorte. Hein. La croyance dans le rôle de l'État, dans le bon fonctionnement de l'État est beaucoup plus forte qu'elle n'était au 18e ou au 17e, a fortiori. Mais les marginalistes sont importants, effectivement, constituent une étape importante, même si, là encore, hein, ils accordent à l'État un rôle important, c'est-à-dire ils ne considèrent pas que le tout marché puisse fonctionner.
Et en ce sens, on va voir si effectivement les marginalistes, dont on va parler dans un instant, sont des libéraux ou non. Mais d'abord, Antoine Rebérol, quelle première définition du libéralisme économique donneriez-vous ?
Je pense que... dans le mouvement même par lequel la science économique s'est constituée, c'est passé par l'affirmation de lois économiques, de lois des prix, de lois. Et par définition, les lois que les économistes voulaient mettre en évidence, eh ben, c'est ce qui échappe à l'État. C'est ce à quoi l'État ne peut rien. Donc il y a quelque chose de très profond dans le lien, en termes très généraux, comme vous voyez, mais très profond entre la science économique et le libéralisme. C'est vrai.
Et entre le libéralisme et le rejet de l'État.
Le rejet de l'État. Mmh. Alors évidemment, il y a plein de formes de libéralisme, Nathalie a absolument raison. Et qu'est-ce que c'est l'État? Quel rôle on lui donne? Il peut être plus ou moins important. Et les auteurs vont beaucoup varier dessus.
Mais effectivement, comme le disait Nathalie Tigaud, c'est peut-être les économistes classiques qui vont donner leur lettre de noblesse à ce libéralisme économique au XVIIIe siècle. Vous parliez d'Adam Smith, David Ricardo et peut-être plus tard John Stuart Mill. Mais ce que l'on constate, c'est que ce sont des théories qui vont commencer à être remises en cause après les révolutions de 1848 en Europe, Nathalie Tigaud.
Même avant, hein, on ne va pas attendre 1848 pour cela. C'est-à-dire que vous avez effectivement au début du 19e des contestations à la fois théoriques, mais également des contestations sociales très fortes. Vous avez des conditions de vie qui sont déplorables pour les ouvriers. Vous avez petit à petit la constitution d'un prolétariat, une sorte de classe ouvrière qui se développe et donc qui va se retrouver sur des intérêts communs et sur des possibilités de contester et de discuter de la manière dont la production est organisée, dont les salaires sont versés, etc., etc. Donc on a à la fois cet aspect théorique et factuel.
Et le point de bascule entre les classiques et les néoclassiques se situe notamment sur le terrain de la théorie de la valeur.
La valeur, c'est certainement la question la plus centrale de la théorie économique, car il s'agit de savoir pourquoi les marchandises s'échangent et à quel prix. Et c'était ça la question centrale. Et elle a reçu deux réponses dans l'histoire de la pensée économique qui sont différentes. La première réponse est celle des classiques, donc qui date d'Adam Smith, David Ricardo et Karl Marx, qu'on peut mettre dans cet ensemble, et qui pensait que la valeur des marchandises était liée à la quantité de travail qui était nécessaire à leur production. Donc ça, c'est la première réponse. Cette réponse a été abandonnée au tournant du 19e et du 20e siècle avec ce qu'on appelle la révolution marginaliste, qui a pensé de manière totalement différente et qui a vu la valeur dans l'utilité. Et donc, ce n'était pas plus du tout du côté de la production, mais du côté de l'utilité qu'il fallait chercher la valeur des objets. Et c'est la théorie qui prévaut jusqu'à aujourd'hui.
L'économiste et directeur de recherche au CNRS, André Orléan, lors des journées de l'économie de Lyon en novembre 2012. La valeur des objets, Nathalie Tigaud, était allée chercher du côté de l'utilité, et si l'on veut être plus précis, de l'utilité marginale.
Voilà. C'est vrai que c'est un changement, même s'il y a, chez certains économistes classiques, déjà préalables ou des auteurs tels que c'est qui considèrent que la valeur des biens dépend de l'utilité. Jean-Baptiste C est un exemple, mais par contre ce que apportent les marginalistes, c'est vraiment une réflexion sur l'utilité marginale, c'est-à-dire l'utilité procurée par la dernière unité du bien consommé. Et de manière symétrique, au niveau de la production, vous avez la productivité marginale, c'est-à-dire la production produite, si je puis dire, par le dernier travailleur ou la dernière heure travaillée.
Et la nouveauté peut-être des marginalistes, c'est qu'effectivement, comme vous le dites, l'utilité marginale concerne autant le consommateur que le producteur.
Alors oui, enfin le raisonnement marginaliste, le raisonnement à la marge concerne l'un et l'autre. Hein, mais l'utilité, c'est vraiment le consommateur.
Et alors ce qui est intéressant, c'est que c'est une découverte qui est réalisée simultanément ou presque par trois économistes, William Stanley Jevons à Manchester, Karl Menger à Vienne et Léon Valras à Lausanne, alors qu'ils ne sont absolument pas en contact à ce moment-là, Antoine Rebérol.
Oui, c'était un cas de découverte simultanée, parce qu'en réalité, je crois que c'est Jevons qui a écrit le premier, l'égalité du rapport de prix au rapport des utilités marginales, précisément. Mais en réalité, Valras et Menger ne le connaissaient pas quand ils sont. Donc le fait qu'il ait eu n'établissait pas une préséance.
Voilà. Et en même temps, ce terme de marginaliste n'existe pas encore. Comment est-ce qu'il apparaît, Nathalie Tigaud? Alors, le terme de marginaliste, c'est un terme qui est introduit par Hobson en 1914, je crois, de mémoire. Hobson, qui était un économiste, alors qui se considérait lui-même comme humaniste, hein, il se définissait comme humaniste, et qui introduit le terme justement pour insister sur l'aversion marginaliste du producteur. C'est-à-dire, il a en tête une critique à adresser aux marginalistes, et c'est pour ça qu'il les regroupe ensemble, hein, parce qu'il est plus simple de critiquer un même ensemble et de le caractériser de manière simplement. Ce qu'il reproche à ses auteurs, c'est de considérer que la rémunération est juste, simplement parce que dans la productivité marginale, dans l'hypothèse de productivité marginale, il y a l'idée que le salaire, donc la dernière unité payée, par exemple à quelqu'un, la dernière heure payée, correspond exactement à ce que cette personne à apporter à la production. Donc il y a une équivalence entre le coût et l'apport, en quelque sorte. Donc pour les marginalistes, il y a un côté juste dans cette répartition. Et Hobson s'inscrivait en faux. Hein,
Et c'est en ça qu'on considère qu'il est l'un des premiers économistes hétérodoxes.
Alors non, je dirais que au niveau des économistes hétérodoxes, vous avez sans doute les premiers c'est peut-être les institutionnalistes les premiers hein, s'inscrivant à la même époque. Hein. Comme vous le savez, l'hétérodoxie et l'orthodoxie, ça bouge, ça dépend un petit peu de qui est dominant, de la pensée dominante à un moment. Mais je dirais que pour la période, c'était sans doute les institutionnalistes qui sont les plus présents, parce que les institutionnalistes, donc c'est un courant américain qui a vraiment joué un rôle aux États-Unis très fort, hein, conseillant Roosevelt sur certaines politiques sociales, etc. Et les évolutionnistes donc ont une existence vraiment institutionnelle, ce que n'a pas Hobson.
Alors, est-ce qu'on peut parler d'une révolution marginaliste selon l'économiste Joseph Schumpeter, Alfred Marshall, qui est lui-même pourtant considéré comme l'un des principaux théoriciens de l'école néoclassique, n'était pas de cet avis?
Pour un homme tel que Marshall, qui avait été formé aux mathématiques et à la physique, et pour lequel le concept de limite, et donc la partie formelle du principe d'utilité, ne représentait rien que de très banal, il suffisait de jouer mentalement avec les formules vagues de Mill et d'en élaborer le modèle exact, c'est-à-dire le système d'équations qui leur correspond, pour atteindre un point qui n'est plus si éloigné déjà des résultats théoriques qu'il énoncera dans les principes d'économie politique. Les innovations faites en chemin devaient lui apparaître comme de simples développements des idées de Mill et non comme des trouvailles révolutionnaires. En outre, quand on est une autorité reconnue avec derrière soi la majorité de l'opinion, on ne prépare pas la révolution. Qu'il s'agisse de politique ou de science, il faut alors mener ses troupes avec prudence. L'agitation révolutionnaire est le fait des minorités, qui doivent faire du tapage pour peu qu'elles veuillent être entendues. Ce jugement s'accorde assez bien, je crois, avec l'opinion professée par les Marshalliens, et en tout cas avec la thèse que je défends, selon laquelle Marshall aurait fait œuvre créatrice. Dans le domaine de la théorie pure, il s'entend.
Un extrait de l'histoire de l'analyse économique de Joseph Schumpeter, qui est publié en 1954. Alors, que vous inspire ce texte, Nathalie Sigaud? Est-ce qu'on peut parler d'une révolution marginaliste, ou est-ce qu'on assiste plutôt à la naissance d'un nouveau paradigme néoclassique?
Alors, la question qui se pose, c'est celle de la continuité entre les classiques et les marginalistes, en fait. Hein. Et c'est le terme, d'ailleurs, néoclassique. Là, j'avais parlé tout à l'heure de Veblen. Le terme est introduit par Veblen, qui voit une continuité. Je suis pas complètement persuadée, je ne sais pas ce qu'il en est pour Antoine, mais je ne suis pas totalement persuadée par cette idée de continuité. Vous avez tout à l'heure fait référence à une théorie de la valeur, c'est une théorie de la valeur radicalement différente entre les classiques et puis les marginalistes. Vous avez un accent mis sur la consommation et non plus sur la production, également entre les deux, hein, donc la consommation est le centre fort de l'analyse marginaliste, alors que les classiques faisaient plutôt référence à la production. Donc
vous seriez plutôt partisane d'une véritable idée de rupture. Qu'en est-il pour vous, Antoine Rébérol?
Oui, je pense que la première génération, en tout cas pour Valras, c'est clair, avait un sentiment de table rase. Et il lisait peu les économistes antérieurs, il les méprisait, il leur adressait d'ailleurs des reproches peu raisonnables, en leur reprochant de ne pas savoir compter le nombre d'équations et d'inconnus qu'ils manipulaient, ce genre de choses. Mais en tout cas, il a élaboré son système sur une base complètement originale. Et je crois que c'est Jevons aussi, il avait ce sentiment-là. Marshall est un cas particulier, parce que Marshall un peu comme Wigzell dans d'autres, dans le domaine monétaire, mais a été sensible à une menace sur la discipline elle-même. L'écart était si violent, si brutal entre les écrits de Marx ou de Ricardo et ceux des auteurs qui ne parlaient même pas de production dans le modèle de base et d'élaborer une théorie de la valeur sans qu'il y ait le moindre production, simplement avec le principe d'utilité, si vous voulez. L'écart était tel qu'on pouvait penser que la discipline elle-même était menacée.
Il a pensé que la discipline allait se scinder en deux courants.
Voilà. Et alors Marshall, très consciemment, a voulu dire, mais non, la nouvelle loi, c'est l'offre et la demande. Mais l'offre, c'est les considérations classiques qui l'expliquent. Et la demande, eh ben, c'est les considérations, effectivement, basées sur une fonction d'utilité, qui peuvent l'expliquer. Mais les deux vont agir conjointement pour obtenir le résultat qui est l'équilibre économique. Donc il avait vraiment une volonté de synthèse. Et d'ailleurs, il le dit très bien, ça se retrouve y compris dans des considérations macroéconomiques aujourd'hui, c'est-à-dire que il estime que à court terme, ce qui compte le plus, c'est la demande. Pourquoi ? Parce qu'à court terme, l'offre n'a pas vraiment le temps de s'ajuster. Hein. En ultra courte période, comme il disait, le marché aux poissons, il faut vendre les poissons en rentrant de la pêche. Et puis, si on va au contraire vers des périodes qui sont plus longues, alors c'est l'offre qui devient prépondérante. La demande ne vient plus que déterminer le niveau des quantités produites, mais le niveau des prix va être déterminé par l'offre.
Alors c'est important ce que vous dites.
On a dit beaucoup en macroéconomie qu'à long terme, on était tous classiques, même les keynésiens, que les possibilités de jouer sur le niveau global d'activité dépendaient de la courte période.
On va revenir sur Alfred Marshall, effectivement, qui appartient peut-être plus à la seconde génération des marginalistes, et effectivement à ce que vous soulignez, Antoine Rébérol, sur le rôle du temps dans l'analyse économique chez Marshall. Mais d'abord, je voudrais qu'on revienne aux différences de méthode entre les classiques et les néoclassiques. Quelles sont-elles, Nathalie Sigaud ? Est-ce que c'est essentiellement dans les mathématiques, l'usage des mathématiques, que se situe la différence ?
Alors, bon, c'est vrai que la thèse existe, hein, selon laquelle la rupture serait une rupture méthodologique entre les classiques et les marginalistes. Les marginalistes ayant introduit un raisonnement à la marge, donc des outils mathématiques, d'un autre type d'ailleurs que ceux des classiques. Hein, les classiques privilégiant peut-être plus les statistiques éventuellement lorsqu'ils introduisaient un outil formel. Et les marginalistes, eux par contre, raisonnant donc sur la base de limites, de maximisation sous contrainte, etc., etc. Alors, en même temps, cette thèse pose un problème lorsqu'on s'intéresse à Menger. Menger est l'un des auteurs, et toute la tradition d'ailleurs dont vous allez parler par la suite, toute la tradition autrichienne se caractérise par ça, un des auteurs qui refuse catégoriquement l'utilisation de mathématiques.
Et pour quelle raison ?
Alors, il a, disons pour le dire simplement, je pense que la raison principale, c'est le fait que pour Menger, on ne peut pas raisonner à l'équilibre, on doit raisonner en termes de processus. Et un processus, au moins à l'époque, on a du mal à le représenter sous une forme formelle, formalisée. Par ailleurs, il y a une incertitude, il y a des institutions chez Menger qui jouent un grand rôle, etc. Ce qui fait que tout ça, ça ne peut pas être capté dans un outil formel.
Alors que pour Gévon et Valras, peut-être que les mathématiques sont le moyen de donner à l'économie le statut de science.
Oui. Oui, oui. Alors là, c'est extrêmement fort, surtout chez Jevons, mais je pense aussi chez Valras aussi. Ouais. Voilà, Jevons a travaillé un petit peu sur la méthode, hein, et sur les sciences. Il publie un gros ouvrage sur les sciences, et pour lui, il y a une sorte d'équation évidente qui est une science, c'est quelque chose qui est mathématique, et donc l'économie. Dès l'instant où elle porte sur des quantités plus ou moins, hein, c'est simplement plus, par exemple, plus d'utilité ou moins d'utilité, eh bien, l'économie est une science.
Et en même temps, l'histoire est peut-être aussi un moyen de vérifier un certain nombre d'équations, les exemples historiques que l'on peut mobiliser, Antoine Rébérol.
Oui, les auteurs dont on parle là sont surtout des théoriciens. Hein, ils n'ont pas fait énormément d'économie appliquée en réalité, ou c'est le moins important dans leur. si c'est Théorène, ça sans doute, mais enfin. Non, ce que je voudrais souligner, c'est que c'est l'utilisation avant la révolution marginaliste. À vrai dire, c'est même pas la révolution marginaliste, c'est Cournot. Oui. C'est le Cournot qui est le premier, ça c'est en 1838, très tôt, a utilisé des fonctions déterminées, comme on dit. C'est-à-dire, au lieu de prendre des exemples numériques, comme faisaient Ricardo, Marx, etc., Malthus, des petits exemples, alors on donnait des chiffres, on avait une arithmétique, on utilisait l'addition et la multiplication pour développer son exemple. Et bien maintenant, on passe à des fonctions qui sont indéterminées. On écrit Y est une fonction de X. Mmh. Ça veut dire que X est la cause de Y, et par conséquent, on va tirer des conséquences du fait que c'est une mathématique qualitative. Si je dis que X augmente, alors Y va augmenter aussi, ou bien il va baisser. Mais je vais donner des signes de correspondance qui ne sont pas quantifiés. Mmh. Et ça, c'est quand même très important par rapport à un caractère très choquant, finalement, qu'il y a à l'idée que l'économie est une science mathématique. Vous voyez, hein, ce que Jevons et Walras ont voulu affirmer de façon dogmatique, presque, enfin, mmh. faire école là-dessus. Enfin, ils en faisaient un thème. Parce que la liberté, l'économie, c'est une science humaine. Et les hommes, c'est la liberté.
D'où la remise en question de cette idée selon laquelle l'homo economicus est un être rationnel qui peut justement, dont les actions peuvent être mathématisées finalement.
Oui, mais on a reproché à Walras, vous voyez, de vouloir mettre la liberté en équation. Quand Walras est arrivé avec ses modèles, avec son économie d'échange, avec ses dérivés, avec tout ça, il est tombé sur les libéraux français qui ne comprenaient rien parce qu'ils savaient pas ce que c'était qu'une dérivée, qui avait le pouvoir. Donc le pauvre Walras, il a été exilé en Suisse, personne ne voulait entendre parler de lui. Voilà. Mais le reproche catégorique, c'était ça. Monsieur Walras, c'est clairement un fou puisqu'il veut mettre la liberté en équation. Or, c'est ce qui résiste.
Alors, il y a les mathématiques qui apparaissent comme un point de rupture entre les classiques et les marginalistes. Peut-être un autre apport, c'est cette idée que la concurrence existe du côté de l'offre, mais aussi du côté de la demande. Nathalie Sigaud, cette idée selon laquelle les entreprises, finalement, peuvent être concurrentes pour l'embauche de salariés.
Oui, mais ça, j'ai l'impression que c'était déjà présent
chez
les classiques. Oui, je pense pas que ce soit un point de rupture. C'est-à-dire que la notion de concurrence va être précisée. Mais là encore, il va y avoir des différences en fait entre nos auteurs. Mmh. C'est-à-dire que je ne parle pas de Walras puisque Antoine va sans doute reprendre, mais par exemple chez Jevons, la concurrence est décrite de manière très très particulière. Quand il décrit un marché, il a un producteur. Et ça ne le gêne absolument pas. Donc il ne parle jamais de concurrence pure et parfaite, de la manière dont on va en parler aujourd'hui.
Donc il s'oppose même sur cette dimension, effectivement, qui pourrait paraître consensuelle, qui est celle de la concurrence.
Voilà, ils mettent en avant, en fait, très souvent des aspects du type pouvoir de négociation. Et donc, nous disent, enfin, chez Jevons et Menger, ce sera pareil, ils nous disent, on a du mal quand même à décrire un marché de manière complètement abstraite dès l'instant où il y a des conditions extrinsèques au marché qui vont intervenir sur le résultat de l'échange. Et par exemple, c'est le pouvoir de négociation.
Mmh. Antoine Rébérol.
Oui, je voulais dire que chez les économistes antérieurs, au marginalisme, chez Smith, chez Ricardo, il y a quand même cette idée que les capitalistes se font en concurrence entre eux, sur le marché des biens. Parce qu'ils essayent de spiquer le marché. Il y a une gravitation des prix de marché qui fait qu'on essaye de faire concurrence en accroissant sa part de marché. Mais que les mêmes capitalistes, eh bien, en réalité, ont des intérêts communs face à la population ouvrière. C'est-à-dire qu'il y a une analyse qui est quand même une analyse fondamentalement en termes de classe sociale. Et donc, de ce point de vue-là, eh bien, dans l'idée de Smith, il y a des coalitions qui sont même pas nécessaires de dire, parce qu'elles sont implicites entre les capitalistes, et qui leur permettent, en réalité, de déterminer le salaire.
Et en quoi l'analyse néoclassique va-t-elle être différente?
En tout cas, chez Walras, parce que Walras, c'est peut-être celui qui tiendra la position inverse la plus radicale. Pour Walras, ça sera exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un principe de concurrence qui s'applique absolument à tous les marchés.
Voilà. Et alors, quoi? Mais par contre, il y aura plus de classe sociale.
Il n'y aura plus de classe sociale.
Je pense que ça, c'est important aussi.
Bah, oui, c'est
ce sont des individus qui sont face à face, qui sont isolés et qui
Voilà, n'appartiennent plus. Enfin, l'appartenance à une classe sociale n'a plus de sens, ne fait pas partie de l'économie pure pour ces auteurs.
Et pourquoi prédit-il ainsi la disparition, en tout cas, voit-il la disparition des classes sociales, Antoine Rébérol?
Sur le plan de sa pensée politique, il continue à penser qu'il y a des classes sociales. Mmh. Hein, mais il pense que l'histoire progresse et que l'avenir radieux verra la disparition du prolétariat. Mmh. Par l'accès, sont mises en œuvre un certain nombre de réformes qu'il a en tête.
Et comment est-ce qu'il l'explique, cette disparition du prolétariat ?
Par l'accès des travailleurs aux moyens de production, par la formation du capital.
D'accord.
C'est ça, son...
William Stanley Jevons. William Stanley Jevons, à l'âge de 27 ans, s'est penché sur les grandes questions économiques et a beaucoup étudié Bentham. Et si vous lisez ses textes, il décrit clairement sa dette envers Bentham et sa croyance que seule compte l'utilité et qu'elle n'est qu'un compromis entre plaisir et peine. Il y a donc un lien direct entre la pensée de Bentham, l'utilitarisme benthamien, et les travaux de Jevons.
On entendait Kyle Harper, professeur d'histoire à l'université d'Oklahoma. Alors, Jevons est considéré comme le premier économiste néoclassique. Et ce qui est intéressant, donc, c'est cette influence de Jeremy Bentham. Quelle a été cette influence, Nathalie Sigaud?
Alors, c'est une influence qui est extrêmement présente chez Jevons, qui ne l'est pas chez les autres auteurs, hein, chez les trois auteurs dont vous avez cité, hein, parmi
donc
ces trois auteurs.
Ni Menger, ni Walras.
Voilà, voilà. Jevons fait directement référence à Bentham à deux niveaux. Et je pense que, il faut bien distinguer les deux pour comprendre et pour revenir sur la question du libéralisme de tout à l'heure. D'une part, au niveau de l'économie pure. L'économie pure, c'est la description du marché, sans prendre en compte les institutions, les contingences, disons. Et là, ce que nous dit Jevons, au niveau de l'économie pure, c'est l'ouvrage de 1871 auquel je pense, c'est que l'individu essaye de maximiser ses plaisirs et de minimiser ses peines. Concrètement, en économie, ça veut dire maximiser ses choix de consommation, enfin, en termes de consommation, maximiser ses plaisirs en termes de consommation.
La satisfaction qui retire de la consommation.
Voilà. Et minimiser son travail, parce que le travail, c'est une peine, c'est un effort. Voilà. Donc, il y a ce choix, hein, qui est expliqué uniquement par des sensations de plaisir et de peine. Et puis, à un autre niveau, et ça, c'est sans doute moins connu, Jevons est aussi un réformateur social et il nous dit que le rôle de l'État, le rôle de tout réformateur social, hein, plus généralement, ça doit être de maximiser le bonheur collectif, le bonheur de la société dans son ensemble. C'est-à-dire on ne descend plus au niveau des individus, mais on va au niveau du bonheur collectif. Et là, c'est des réformes à mettre en place de manière à ce que les individus puissent effectivement avoir le plus grand bien-être, disons, le plus grand bonheur possible.
Et c'est en cela qu'il s'inspire de Bentham, avec cette idée de Bentham que le but de l'action humaine est le plaisir de chaque individu qui va se livrer à ses calculs hédonistes.
Voilà. Il reprend d'ailleurs, hein, Jevons, donc ça c'est le premier aspect, hein, Jevons reprend vraiment Bentham, qu'il cite hein, dans l'un des premiers chapitres
le plus grand
de la théorie.
Le plus grand. C'est ça le slogan.
Alors, il y a les deux aspects, c'est-à-dire qu'effectivement, Jevons reprend le Felicific Calculus de Bentham, où on décrit le comportement individuel, hein, et donc ça donne lieu à la consommation, à la production. Et puis, de l'autre côté, il y a le plus grand bonheur du plus grand nombre, et là, ça donne lieu aux réformes sociales.
Et ça lui permet de montrer à Jevons que le plaisir diminue avec la répétition et aussi que l'utilité n'est pas une qualité intrinsèque des marchandises, Antoine Rébérol.
Oui, je crois qu'il faut bien voir qu'il y a une autre révolution dont on ne parle pas beaucoup à l'intérieur même du courant néoclassique. C'est celle qui existait entre une origine benthamienne ou utilitariste de cette pensée qui voit, disons, l'utilité comme une chose positive, existante. Hein, je crois que on pouvait mesurer en utile. Hein, l'utilité d'un bien, il faut être mesuré en utile, etc. Voilà, c'est d'ailleurs une position intermédiaire parce qu'il explique, il critique ça, il dit c'est pas possible. Et que malgré tout, il fait un coup de force scientifique, il va poser que ça, qu'on peut calculer avec ça. Alors, il n'écrit jamais les fonctions d'utilité, mais uniquement les utilités marginales.
Donc, vous dites qu'il y a la position de Bentham et l'autre position.
Alors, l'autre position, c'est qui est venue ensuite à partir de Pareto. C'est-à-dire qu'avec Pareto, on a eu une critique de cette conception. On a dit que l'utilité n'était pas une grandeur cardinalement mesurable. Je ne peux pas la compter, je ne peux pas parler de 10. Hein. Je peux simplement dire qu'il y a un peu plus ou un peu moins. Hein. Mmh. Je peux classer, je peux faire un classement, ce qui m'est plus ou moins utile. Mais je ne peux pas dire de combien ça m'est plus utile. Mmh. Donc le concept d'utilité marginale, par exemple, n'a pas de sens. N'a strictement pas de sens dans une optique ordinaliste. Les rapports d'utilité marginale, oui, parce que cela ne dépend pas de la forme. Mais l'idée d'une décroissance, d'une loi de la décroissance de l'utilité marginale, c'est celle qui est évoquée par Jevons, etc., n'a strictement pas de sens pour la nouvelle économie du bien-être qui est basée sur les conceptions de Pareto.
Nathalie Sigouet, sur cette division entre des partisans de Jeremy Bentham et les partisans de Pareto.
Oui, alors je partage tout à fait hein, ce qu'a expliqué Antoine. C'est vrai qu'on distingue en fait l'ancienne économie du bien-être et la nouvelle économie du bien-être. Hein, et l'ancienne économie du bien-être nous dit, à la manière de Jevons, inspiré par Bentham, voilà, l'utilité c'est un état d'esprit, certes, ce sont des sensations, mais on va dire qu'elles sont mesurables. Parce que sinon, on ne peut pas vraiment parler d'économie. C'est embêtant si on ne peut pas les mesurer. On va dire qu'elles sont quantifiables. Et ça, évidemment, dès l'instant où vous faites référence à des sensations, c'est un petit peu difficile d'avoir un discours général. C'est-à-dire que votre sensation, quand vous buvez un verre d'eau, elle n'est pas comparable à la mienne. Ça n'a rien à voir. On ne peut pas donner des chiffres. Donc, ça pose un vrai problème théorique. Jevons avait trouvé une solution pour faire face à ce problème qui consistait à dire, bon, on ne peut pas mesurer directement et on ne peut pas observer directement l'utilité. Donc prenons le prix, ça révèle l'utilité. Le prix d'un bien, ben voilà, si je paye plus cher, c'est bien parce que j'accorde plus d'utilité, ça m'apporte plus de satisfaction.
Mais il a dû s'entendre répondre qu'il prenait peut-être le problème à l'envers.
Alors, non, c'est resté en quelque sorte dans les cartons. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'a pas du tout été mis en avant. Très vite, effectivement, il y a la révolution, ce qu'on a appelé la révolution ordinale, qui va s'appuyer sur Pareto, consistant à dire arrêtons de mesurer et limitons-nous à un classement. On peut dire qu'un bien a plus de valeur qu'un autre si il apporte plus de satisfaction, point. On ne va pas aller plus loin.
Bon, on va continuer notre discussion sur les marginalistes et on va revenir dans un instant sur le rôle qu'a joué Karl Menger.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Mathematical Mind du groupe américain Spoon. Nathalie Sigouet et Antoine Ribérol sont toujours avec nous pour parler de l'histoire de la pensée économique libérale. Et j'aimerais maintenant que l'on s'intéresse à l'Autrichien Karl Menger.
dans les années 1870, il y a Karl Menger s'en prend au grand représentant de l'économie, de la science économique en Allemagne, qui s'appelle Gustav von Schmoller. Et il dit que c'est un imbécile, qu'il ne faut pas faire la science économique comme ça. Et je vais vous le dire, Menger a entièrement tort, von Schmoller entièrement raison, et plus personne, vous ne savez pas, vous n'avez jamais entendu parler de ce nom de Gustav von Schmoller, et tout le monde parle de Karl Menger, on réédite ses livres, on dit que c'est un génie, que c'est un des inventeurs de la science économique moderne, et c'est vrai, et il s'est lancé comme ça, il s'est lancé par une polémique d'une mauvaise foi absolue, avec des arguments qui ne tiennent pas une seconde, mais qui sont, des arguments qui ne tiennent pas une seconde, mais dont je vais souligner, qui sont les dogmes actuellement de la science économique moderne.
Voilà, l'économiste et anthropologue Paul Jorion dans une vidéo postée sur son blog il y a un an. Alors, en quoi consiste d'abord cette querelle des méthodes qui oppose Menger et l'allemand Gustav Schmoller, Nathalie Sigaud? Et est-ce que vous partagez l'avis de Paul Jorion selon lequel c'est Menger qui se trompait?
Alors, je vais d'abord répondre à la première question. La deuxième, je la laisse pour l'instant de côté. La première, je pense qu'il y a deux points qui sont liés d'ailleurs, hein, deux points d'opposition. C'est d'abord l'existence ou non de lois universelles. On en a parlé tout à l'heure, hein, sur le libéralisme. Menger considère qu'il existe des lois universelles en économie, donc des lois valables en tout lieu et en tout temps, alors que les auteurs dits de l'école historique allemande, dont Schmoller est un représentant, est l'un des principaux représentants, tout au moins de la première école, hein, première école historique. Ces auteurs considèrent qu'il n'est pas il n'est pas possible de déterminer des lois universelles et donc vont plutôt aller vers des collectes de faits. Pour eux, il faut collecter des faits, il faut faire des monographies. Alors c'est souvent assez pénible à lire, hein, des monographies qui concernent une période, une question bien précise, un lieu, etc. On collecte plein de faits et à partir de là, on en tire des conclusions, mais qui ne sont pas générales puisqu'elles sont liées, enfin elles sont appuyées sur des observations qui ne sont valables qu'à un moment et pour un endroit donné. Et donc deuxième élément de la querelle, me semble-t-il, qui est lié au premier, c'est la méthode, c'est-à-dire que pour les membres de l'école historique allemande, il faut s'appuyer sur l'inductivisme, alors que les auteurs classiques, parce que c'est avant tout contre les classiques que l'école historique allemande s'est prononcée, les auteurs classiques, eux, vont développer plutôt une approche déductive, c'est-à-dire déduire des grandes théories et ensuite éventuellement les confronter à la réalité.
Et alors ce que nous dit Paul Jorion, c'est que finalement ce que la pensée économique a retenu, ce qui est aujourd'hui la pensée économique dominante, c'est l'héritage de Karl Menger par rapport à ce que pouvait apporter l'allemand Gustav Schmoller. Vous êtes d'accord avec cela, Antoine Rébérol?
En tout cas, le XXe siècle a donné raison aux théoriciens, parce que c'est comme ça que ça s'est posé. Et ça a triomphé, une économie mathématique, à travers la théorie de l'équilibre général, d'ailleurs, qui avait fondé Valence. Mais tout ça, ça a été au XXe siècle. Alors, qu'est-ce que ça devient aujourd'hui? Peut-être que les résultats sont moins clairs. C'est vrai qu'apparaît, en particulier en macroéconomie, quelque chose qui est beaucoup plus empirique dans sa démarche que ce qui était considéré auparavant.
En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un clivage qui apparaît ici et qui va perdurer tout au long du XXe siècle, Nathalie Sigaud.
Oui, mais pour compléter peut-être, il faut bien voir aussi que Menger va donner lieu à donner naissance à une école autrichienne, dite autrichienne, qui fait partie quand même d'un courant très atypique, c'est-à-dire c'est pas le mainstream. Et d'ailleurs, la réponse d'Antoine a été tout de suite de rapprocher l'état de la science au XXe de Walras plutôt que de Menger, parce que Menger, c'est l'hétérodoxie. Encore aujourd'hui, bon, il y a une pensée autrichienne. Vous allez en parler.
On en parlera demain autour de Hayek.
Qui est très libéral, qui est très atypique aussi, du point de vue des méthodes, du point de vue des conclusions aussi, du point de vue du rôle joué par les institutions. Enfin, bon, elle a plein de caractéristiques qui ne la font pas rentrer dans l'approche dominante. C'est plutôt effectivement l'équilibre général qui a été dominant et une approche purement théorique.
Alors justement, l'équilibre général, venons-y. C'est donc Léon Walras, exilé à Lausanne, nous disiez-vous, Antoine Rébérol, qui va développer cette théorie. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer?
d'une certaine façon, l'idée d'équilibre général, par opposition à l'équilibre partiel, je pense que c'est ça votre question.
L'équilibre partiel qui sera ensuite développé par Alfred Marshall.
Qui sera développé ensuite par Alfred Marshall, tient à l'idée d'interdépendance générale. Ça veut dire que pour un équilibre partiel, on peut étudier le marché d'un bien pas très important. Et ensuite, ça marche encore mieux si on peut considérer que la quantité d'argent qu'on va dépenser sur ce marché est très faible par rapport à son revenu global. Mmh. Par exemple, le marché du sel de table. On va tous manger du sel de table. On va réagir au prix du sel de table. Si on doit le payer plus cher, on sera un peu plus pauvre. Mais ça aura si peu d'importance que les autres marchés n'en seront pas affectés.
Alors que ce que dit Valras, c'est que tous les marchés sont interconnectés.
Sont interdépendants, absolument. Et ça va jusqu'au point que vous Pareto dira qu'avec Valras et l'équilibre général, le concept de causalité n'existe plus. Parce que je ne peux pas dire que A est la cause de B, puisque B est en même temps la cause de A, qu'en fait c'est interdépendant. Mmh. Et que donc la figure mathématique, c'est la résolution simultanée d'un système d'équations.
Et alors, pour Schumpeter, la révolution des années 1870 est finalement plus celle de l'équilibre économique général, développé par Valras, que celle de l'utilité marginale. Est-ce que vous partagez ce point de vue ?
Oui et non, c'est-à-dire que non parce que les auteurs classiques avaient un système d'interdépendance en tête, si vous voulez. Il n'y avait pas
l'idée. C'est moins une rupture qu'une continuité.
C'est l'idée d'équilibre partiel qui est bizarre.
Bizarre dans quel sens ?
En ce sens qu'il faut quand même une construction très spéciale pour dire je neutralise des effets de façon à pédagogiquement en quelque sorte pouvoir donner des lois locales. Mais en sachant que c'est une vision limitée.
Mmh. Oui. Et alors, en tout cas, cet équilibre dont parle Léon Valras, c'est un équilibre qui serait juste et qu'on ne peut pas améliorer sans dégrader la condition de l'un ou l'autre des acteurs. Ça, c'est un élément phare de sa théorie.
Non, c'est exactement l'inverse, en fait.
Alors, expliquez-nous ça.
Je crois que Valras voulait séparer, et c'est d'ailleurs ce qui fait sa modernité, voulait vraiment séparer les questions d'efficacité et les questions de justice. Je vous ai dit, d'ailleurs, on lui reprochait de mettre les libertés en équation. Valras explique qu'il y a une science pure, et que cette science pure relie des biens entre eux, des choses entre elles. Et que donc, c'est une équation quantitative qui va la traduire, c'est la théorie des prix. La théorie pure, l'économie pure, pour Valras, c'est purement la théorie des prix. Mais à côté de cette économie pure, il y a des relations entre les gens. Et là, il y a une économie sociale. D'accord, qui pose des problèmes des questions relatives à la justice. Par exemple, un jugement de science pure, son critère est le vrai. C'est-à-dire, il est vrai ou il est faux. Tandis qu'un jugement de science morale, comme il l'appelle parfois, eh bien, est juste ou injuste. Voilà l'affaire. Donc, si vous voulez, il a voulu séparer les deux questions. Alors, il avait un socialisme assez particulier, qui tenait de son père, qui tenait de Gossen, qui tenait d'une longue tradition, si vous voulez, dans laquelle on va pouvoir définir une justice des facteurs primaires, ce qu'on appelle les facteurs primaires, c'est-à-dire les facteurs de production non produits, le travail, les travailleurs et les terres.
Et alors, est-ce que c'est cela, dans cette dynamique-là, Antoine Rémérol, que Valras va être amené à prédire la disparition quasi totale des profits ? Est-ce que c'est lié aussi à son engagement socialiste, puisque lui se dit socialiste ?
Non, c'est à l'équilibre, en général, il n'y a pas de profit, il n'y a pas de bénéfice. Mmh. Mais l'intérêt que d'autres auteurs appelleraient le profit, fait partie du système d'équations. D'accord ? C'est lui qui serait... Non, ça, c'est des questions de vocabulaire un peu techniques, mais c'est des surprofits qui disparaissent à l'équilibre, bien évidemment. Non, son socialisme, c'est qu'il pense qu'il y a un rôle pour l'État, que l'État doit nationaliser les terres. C'est une théorie de la justice, comme ça. C'est des théorèmes. Premier théorème, l'esclavage est injuste. Les hommes s'appartiennent à eux-mêmes. Point barre. Deuxième théorème, les terres appartiennent à l'État. Parce que l'appropriation privée des terres est source d'inégalité. C'est une vieille idée, hein, qui remonte à Locke, qui remonte à Rousseau, qui remonte Mais c'est une idée qui est complètement reprise par Gossen aussi.
Donc si la propriété foncière est collective, Antoine Réperolle, si je vous suis bien, ça veut dire que ça va favoriser à la fois la production agricole et en même temps ça permettrait de supprimer l'impôt puisque l'État tirerait son revenu de la terre.
Absolument. Ça va permettre de supprimer l'impôt, ce qui a eu beaucoup d'inconvénients pour la vie et pour les opinions politiques des amis de Valras.
Mais... C'est en tout cas le projet de Valras. Alors, c'est intéressant de voir, Nathalie Sicot, que Valras croit à la fois dans la libre concurrence et en même temps dans la nécessaire intervention de l'État, notamment pour la production des services publics.
Oui. Mais je crois que c'est une caractéristique qui est partagée avec Jevons, hein, encore une fois. Ouais. C'est-à-dire que on a gardé l'image des marginalistes uniquement à travers leur économie pure. Et donc tout leur aspect un peu justice, réflexion sur la justice, sur la morale, etc. Alors, qui est peut-être pas tout à fait élaboré, hein, on peut en discuter. Pareto était très critique, par exemple, par rapport à Valras. Je crois qu'il parlait de niaiserie, si je me souviens bien, à propos de ça, dans sa correspondance privée. Mais donc tous ces aspects-là ont été complètement mis sous silence, oubliés, et on a retenu en fait l'approche parisienne, qui était celle à laquelle vous avez fait référence.
Justice et qu'on ne peut pas améliorer sans dégrader la situation de quelqu'un.
Voilà, c'est ça. Voilà. C'est la définition. Tout le monde est satisfait et puis on est à un équilibre. On ne peut pas améliorer la situation d'un agent sans détériorer celle d'un autre. Donc on ne peut pas changer. Sinon, ce serait quelque chose d'injuste pour aller assez vite. Hein, mais c'est ça qu'on a gardé.
Antoine Réperolle.
On peut dire que il y a chez Valras quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'on a appelé après le deuxième théorème fondamental de l'économie du bien-être. Et qui joue sur cette idée qu'il y a deux critères qui sont différents. Il y a un critère qui est un critère d'efficacité. Quand une situation est inefficace, c'est d'ailleurs la façon la plus simple de faire comprendre ce que c'est qu'un optimum de Pareto. C'est de dire que il faut regarder ce qui n'est pas un optimum de Pareto. Quand on est dans une situation où on peut améliorer la situation de tout le monde sans dégrader personne, eh bien, on dit que cette situation représente un gâchis, que c'est sous-optimal. Voilà. Et ces auteurs libéraux croient au marché, ça veut dire que le marché va réduire les sous-optimalités. Il va permettre de les éliminer, donc il y a une efficacité marchande. Voilà, ça c'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est que cette efficacité ne dit rien de la justice. On donne souvent aux étudiants l'exemple le plus simple du partage d'un gâteau entre deux individus qui ont faim chacun et qui sont chacun individualistes, qui ne voient que leur intérêt personnel, etc., etc. Bon, évidemment, vous pouvez un gâteau, vous pouvez le couper de différentes façons. Vous pouvez faire moitié-moitié ou bien un tiers de tiers. Vous avez toutes les possibilités, voire les possibilités extrêmes, que l'un n'est rien et que l'autre est la totalité du gâteau. Bon, ben toutes ces possibilités-là sont des optimums de Pareto. Parce que si moi, par exemple, j'ai tout, ce qu'on peut trouver parfaitement injuste en vertu de pas mal de théories de la justice, alors que l'autre n'a rien, ben, il n'empêche que je ne peux rien donner à l'autre sans m'enlever à moi une part du gâteau total que ce que j'avais auparavant.
Donc c'est une situation optimale.
C'est un optimum de Pareto. Et donc l'optimalité parisienne, c'est à la fois un critère très fort, parce que c'est difficile de ne pas vouloir éliminer les gâchis, quoi. On voit pas comment. Et effectivement, les économistes vont être des chasseurs de sous-optimalité. Mais ça, c'est en même temps un critère faible, parce que les optimales Pareto, il y en a plein. Et qu'on ça ne nous dit pas lequel il faut choisir, et que pour se choisir ou privilégier, il faut une théorie de la justice.
Alors, on va entendre Nathalie Sicot peut-être sur cette question, sur les optimums de Pareto, qui exclut la question de la justice, qui privilégie la question de l'efficacité.
Oui, on retrouve exactement ça, et on retrouve chez nos auteurs, effectivement, des arguments en termes de justice, c'est-à-dire qu'ils en ont conscience. Ils ont conscience que leur approche permet de montrer l'efficacité du marché, mais ne permet pas de traiter, finalement, de ce qu'ils appellent, et ce qui est appelé à l'époque, la question sociale, puisque derrière la justice, c'est ça, quand même, c'est le partage de la richesse entre les uns et les autres. Et donc, ils vont élaborer à côté... Alors, plus ou moins à côté, ils n'ont pas tout à fait les mêmes approches en ces termes, hein, quand on compare par exemple Jevons et Valras. Mais ils ont chacun une visée en termes de justice, une théorie de la justice, plus ou moins élaborée donc, qui leur permet de discuter, hein, de ce qui doit être.
Marie-Esprit Léon Valras n'était pas français par la naissance seulement. Le style de son raisonnement et la nature de son invention sont typiquement français, au sens où l'on peut dire que les pièces de Racine ou la mathématique de Poincaré sont typiquement françaises. On peut en dire autant de toutes les influences qui ont rendu possible cette œuvre exceptionnelle. Il a lui-même souligné le rôle joué par son père, Auguste Valras, et par Cournot. Il faut le rajouter, Jean-Baptiste C., son vrai prédécesseur. Et derrière l'influence de C., on devine celle de toute la tradition française, Condillac, Turgot, Quesnay, Boisguibert, quelle que soit l'importance des emprunts qu'il ait eu conscience de leur faire. Il fait montre d'une référence traditionnelle pour Adam Smith, mais ne s'intéresse guère aux autres grands anglais. La carrière de Valras illustre bien le manque complet d'aptitudes pratiques des grands intellectuels. Il était trop original pour réussir brillamment dans ses études. Sa formation d'ingénieur des mines, à laquelle il doit ses connaissances de mathématiques, ne lui permit pas de trouver une profession. Devenu journaliste indépendant, il exposait ses différentes idées de réforme sociale, celles des éléments les plus avancés de la classe moyenne en France à cette époque, mais demeurait inconnu. Tout au long de sa vie, il eut, cela va sans dire, des admirateurs de rencontres. Mais il fallut attendre la décennie 1920-1930, c'est-à-dire bien des années après que ses idées se furent imposées, et près de 10 ans après sa mort, pour qu'on lui rende ce qui lui était dû.
Voilà un second extrait de l'histoire de l'analyse économique de Joseph Schumpeter. Valras a donc été tardivement reconnu, Antoine Rébérol, mais alors qu'en est-il aujourd'hui? Quelle est sa postérité?
Il est le fondateur incontesté de cette théorie de l'équilibre général, comme on l'appelle, qui n'a produit de véritables démonstrations de ses résultats que un siècle après, enfin autour des années 1950. Les mathématiciens, les vrais mathématiciens, parce que Valras était un piètre mathématicien en réalité, se sont emparés de la question, et d'ailleurs en utilisant une mathématique qui n'existait pas au 19e siècle, donc on ne peut rien lui reprocher. Mais il y a eu un moment de triomphe, alors que Valras avait été complètement méconnu par les économistes britanniques. Il faut vous rendre compte que quelqu'un comme Keynes n'a jamais lu Valras. Parce qu'il lisait pas le français, parce que c'était pas traduit en anglais, ça a été traduit plus tard, et voilà.
Même Marshall ne connaissait pas les travaux de Valras.
Marshall connaissait Valras, oui.
Nathalie Sigaud, on parlait tout à l'heure effectivement de Marshall et de son du rôle qu'il a joué dans cette théorie des équilibres partiels. Marshall qui est le chef de file de l'école de Cambridge. Mais ce qui est intéressant, c'est que les théories de Marshall et plus largement la pensée néoclassique qu'on a essayé d'examiner, de décrire tout au long de cette émission, cette pensée-là va être remise en cause après la crise de 29 avec la montée en puissance des idées de justement celui qui est considéré par certains comme le plus grand des économistes, John Maynard Keynes.
Oui. Oui, c'est-à-dire que si Valras a été ignoré, c'est parce que ce qui a dominé, c'est Marshall. C'est la perspective marshallienne, c'est-à-dire en termes d'équilibre partiel, qui a l'avantage d'être beaucoup plus simple aussi, hein, et d'avoir été diffusé en anglais. Ça aide aussi. Et par contre, au moment de la crise de 29, au contraire, hein, la théorie marshallienne est complètement impuissante à expliquer ce qui se passe, ce que les keynésiens observent, disons, je parlerai des keynésiens en général, hein, mais c'est-à-dire en particulier, ils observent qu'il y a du chômage le chômage augmente alors que le salaire continue de baisser. Et ça, dans une perspective marshallienne, on ne peut pas l'expliquer. Ça a été après très très discuté, hein, cette lecture des faits. Mais en tout cas, ça signifie que on a eu une sorte d'évolution Marshall qui prend la place de la perspective valencienne, puis une fois la perspective marshallienne remise en question par la crise de 29, eh bien au contraire on redécouvre Valras et la puissance de cet outil d'équilibre général.
Donc cette pensée néoclassique va être critiquée pendant cette période qui s'ouvre après les années 30 et on verra tout au long de cette semaine avec Hayek demain, avec Friedman mercredi, comment cette pensée justement va connaître un retour en grâce. Mais d'abord, c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de nous parler aujourd'hui des liens troubles qu'entretient la multinationale Coca-Cola avec le monde de la recherche.
Absolument, alors qu'un rapport du Sénat relance aujourd'hui la polémique autour de la nocivité réelle ou supposée du glyphosate, il était intéressant de constater qu'il n'y a pas que pour les pesticides que se pose la question de la fiabilité de ces publications, trop souvent entachées par la proximité bien réelle, elle, entre les scientifiques et les intérêts économiques. C'est ainsi l'enquête du Monde qui lève le voile sur la pression qu'exerce la multinationale du soda sur les scientifiques afin d'influencer, aiguiller ou enterrer les publications contraires à leurs intérêts. Il faut dire que depuis la fin des années 2000, Coca-Cola et consorts sont régulièrement mis en cause pour le rôle joué dans l'épidémie mondiale d'obésité et de diabète. La firme américaine s'engage alors dans un vaste programme de financement, d'études scientifiques et de partenariats afin de changer son image et de renvoyer la faute sur le consommateur.
L'objectif de Coca-Cola est de relativiser l'importance du sucre dans le déclenchement de telles maladies pour mettre l'accent sur le manque d'activité physique.
Oui, en clair, si vous êtes en surpoids ou souffrez de diabète, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Vous n'avez qu'à faire un peu plus de sport, pas la peine de vous soucier de la consommation d'une petite canette de Coca qui contient pourtant l'équivalent de 7 morceaux de sucre dilués dans 33 centilitres de boisson gazeuse. Coca-Cola a donc multiplié les financements de réunions, symposiums et autres conférences réunissant des professionnels de la santé avec en ligne de mire l'établissement de partenariats pérennes avec différentes sociétés savantes et scientifiques. L'entreprise a ainsi versé 80 000 euros à la Société française de médecine de l'exercice du sport, 140 000 pour les journées annuelles de la nutrition pratique. Mais une partie importante des financements de la firme va directement dans le soutien à des institutions et des projets de recherche sur les questions de nutrition et de diététique. Parmi ces projets, on peut citer CréaBio qui a bénéficié de 930 000 euros pour établir en 2018 qu'il n'existait aucune différence entre l'eau et les boissons contenant des édulcorants à basse calorie en termes d'effet sur l'appétit ou d'apport énergétique.
En une dizaine d'années, Arjuna, Coca-Cola a dépensé près de 120 millions de dollars en projets de recherche et en partenariat.
Exactement, mais ce n'est qu'en 2015, grâce à une enquête approfondie du New York Times, que l'on apprend l'étendue de ses partenariats et de ses financements. L'enquête révèle ainsi que Coca-Cola s'est particulièrement impliqué dans la coordination d'un réseau mondial sur l'équilibre énergétique visant à promouvoir des solutions pour contrer l'épidémie mondiale d'obésité. Cette organisation réunit donc des scientifiques influents qui acceptent, en échange d'une rémunération de Coca-Cola, de publier des articles niant la causalité entre consommation de boissons sucrées et risque de surpoids.
Suite à la publication de l'enquête du New York Times, la firme américaine prend néanmoins une série d'engagements concernant les travaux scientifiques qu'elle sponsorise.
Absolument, Coca-Cola assure que les scientifiques effectuant des recherches grâce à un financement de la firme auront désormais la maîtrise totale de la conception de l'étude, de son exécution, de la collecte, de l'analyse et de l'interprétation des données. Nous voilà rassurés. En réalité, Le Monde explique que si ces contrats ne contiennent aucune disposition accordant à la firme un contrôle absolu sur les études, il lui permet d'exercer une influence sur les études et les publications qui en résultent. C'est ainsi une multitude de clauses et de subtilités qui créent une possibilité de censure. Tout au long du processus, la multinationale exerce un droit de regard sur les recherches et peut à tout instant stopper ou enterrer les résultats s'ils ne vont pas dans son sens. Autant dire que tout ce qui sort effectivement de ces études est sponsorisé par Coca-Cola.
Spirit in the Material World, The Police. Merci beaucoup Nathalie Sigaud et Antoine Rébérol de nous avoir permis de réviser aujourd'hui nos classiques. Demain, c'est la pensée de l'école autrichienne rassemblée autour de la figure de Friedrich Hayek que nous allons explorer. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.